D'habitude, quand on parle de loi ou de règles, on s'attend à une précision chirurgicale, un peu comme un feu de circulation, quoi.
Ouais, le rouge impose l'arrêt, le vert autorise le passage, c'est binaire.
C'est ça. Et d'une certaine manière, bah, cette clarté nous rassure. L'esprit humain adore quand les choses sont clairement catégorisées, quand le bien et le mal tiennent bien sagement dans un tableau Excel.
C'est clair. On aime avoir le contrôle.
Complètement. Bonjour et bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, notre exploration se concentre sur les notes de la conférence du Dr Craig Kinner. Ça concerne les chapitres 5 et 6 de l'Évangile de Matthieu, donc ce texte antique hyper célèbre connu sous le nom de « Sermon sur la montagne ».
Et on précise tout de suite que la mission de cette analyse, ce n'est absolument pas de livrer un prêche religieux pour ceux qui nous écoutent.
Ah non, pas du tout. L'objectif, c'est vraiment de décoder une sagesse millénaire qui est souvent très mal comprise. Le défi ici, c'est de faire la différence entre des lois littérales qui semblent étouffantes et des hyperboles chocs destinées à transformer le cœur humain. Alors, analysons ça en détail. Par où on commence pour ne pas faire un énorme contresens sur la méthode de communication de cette époque ?
La clé de voûte, c'est vraiment de saisir la mécanique du langage dans le bassin méditerranéen du 1er siècle. Ce texte utilise massivement l'hyperbole.
Donc, l'exagération volontaire, c'est ça ?
Exactement. L'exagération volontaire est souvent extravagante. Notre esprit moderne, qui est très analytique et formaté par la pensée scientifique, il a le réflexe d'aborder un texte ancien comme un manuel technique. On le lit au pied de la lettre.
Ouais, on cherche la règle stricte.
Voilà. Or, dans la pédagogie de cette époque, utiliser des images visuellement absurdes, c'était vraiment la méthode standard pour imprimer une idée dans l'esprit du public. Par exemple, parler d'un chameau essayant de passer par le trou d'une aiguille.
Ah oui, l'image classique.
Ou d'une personne qui filtrerait minutieusement un moucheron de sa boisson pour finir par avaler un chameau tout rond. L'orateur ne donne pas un cours de zoologie, tu vois. Il crée un choc cognitif pour illustrer une hypocrisie grotesque.
Ce concept d'exagération rhétorique, ça éclaire immédiatement les exigences les plus radicales du texte. Je pense notamment à ce passage terrifiant où ressentir de la convoitise est mis sur le même plan qu'un acte physique, avec pour solution recommandée de s'arracher un œil ou de se couper la main.
Ouais, c'est brutal.
Si on n'a pas ce filtre culturel, ça ressemble littéralement à un manuel de mutilation chirurgicale.
Et l'histoire du christianisme primitif regorge de ces erreurs d'interprétation, malheureusement. Les notes de la conférence s'attardent d'ailleurs sur le cas tragique d'Origène. C'était un brillant leader et théologien des premiers siècles.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Dans l'ardeur de sa jeunesse, il a lu cette fameuse injonction de couper le membre qui pousse à la faute, avec un littéralisme absolu, et il s'est littéralement castré.
Oh, waouh ! L'angoisse absolue, j'imagine que ça n'a pas dû très bien passer à l'époque.
L'Église n'a pas du tout apprécié, non. Déjà, s'automutiler, c'était vu comme détruire la création divine, mais surtout, c'était considéré comme une solution de facilité.
Une solution de facilité ? Genre, couper un membre, c'est la voie facile ?
Dans un sens, oui, parce que couper un membre, ça ne change absolument pas les désirs profonds de l'esprit. Le problème reste entier à l'intérieur. D'ailleurs, l'ironie de cette histoire, c'est qu'Origène a passé le reste de son existence à devenir le plus grand théoricien de la lecture métaphorique et allégorique de la Bible.
Il a compris la leçon à ses dépens, quoi. L'exigence radicale portée sur la transformation du cœur, pas sur l'amputation du corps. C'est un peu comme un entraîneur de foot avant une finale qui hurle dans les vestiaires. Je veux que vous laissiez votre sang sur le terrain ce soir.
C'est une excellente analogie.
Si un joueur sort un couteau et s'entaille le bras sur la pelouse, il a complètement raté l'esprit du message. Le coach demande un engagement total, pas une hémorragie littérale. Le mariage et le divorce. Parce que, en lisant superficiellement, on a l'impression que le texte interdit toute séparation.
Tout à fait. Mais placer ce discours dans la réalité socio-économique de l'Antiquité, ça en modifie totalement la portée. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'à l'époque, une femme divorcée n'avait presque aucun recours économique.
Elle perdait tout.
Voilà. Le divorce n'était pas un crime sans victime, ni une simple rupture de contrat à l'amiable. C'était un désastre social qui condamnait souvent la femme à la mendicité. Donc quand le texte durcit radicalement le ton, le but n'est pas de créer une prison juridique, mais d'ériger un bouclier pour protéger les plus vulnérables. C'est une exigence de fidélité absolue.
D'ailleurs, le contexte rabbinique abordé par Kinner montre à quel point ces situations pouvaient être absurdes. Il y a cette anecdote savoureuse sur l'obligation de divorcer si un couple n'avait pas d'enfants.
Ah oui, cette histoire est géniale. La tradition rabbinique imposait de se séparer après 10 ans d'infertilité.
10 ans, c'est précis.
Ouais. L'histoire raconte qu'un mari, qui était forcé de divorcer mais qui aimait profondément sa femme, lui dit avant la séparation « Écoute, prends ce que tu aimes le plus dans cette maison et retourne chez ton père. »
Et la femme a eu une idée de génie.
C'est ça. Elle organise un grand banquet, elle saoule complètement son mari, et une fois qu'il est profondément endormi, elle demande à ses serviteurs de le transporter chez son père à elle.
J'adore.
À son réveil, le mari réalise que ce qu'elle chérissait le plus, c'était lui. Les rabbins, touchés par cette preuve d'amour, ont prié pour eux, l'obligation a été annulée, et ils ont fini par avoir un bébé.
C'est une très belle histoire, mais ça montre bien que le divorce était hyper débattu. Les sources parlent d'un conflit entre deux grandes écoles de pensée, non ?
Absolument. Le débat opposait l'école de Shammai à l'école de Hillel. Shammai était très strict, autorisant le divorce uniquement pour infidélité manifeste, genre sortir sans se couvrir les cheveux.
Et Hillel ?
Hillel était beaucoup plus laxiste. Selon eux, un homme pouvait divorcer pour des motifs ridicules, même si sa femme avait juste brûlé les toasts du repas.
Brûler les toasts ? C'est...
C'est absurde, on est d'accord. Face à cette banalisation qui jetait les femmes à la rue, l'hyperbole pour exiger la fidélité prend tout son sens.
Mais attendez, il y a un truc qui me bloque là. Si on applique ce principe de préserver le mariage à tout prix aujourd'hui, qu'en est-il des situations de violence domestique ? On a l'impression d'obliger des victimes à rester avec leurs agresseurs.
C'est une question cruciale. L'analyse de Kinner confirme que, par analogie, la violence physique, ou par exemple le fait de mettre du poison dans le thé de son conjoint,
des actes extrêmes.
Ces actes brisent littéralement l'alliance du mariage. La séparation devient alors légitime, car c'est l'agresseur qui a déjà détruit le contrat. Le texte veut empêcher les abandons frivoles, pas piéger des victimes innocentes.
Ok, ça a beaucoup plus de sens. Et cette idée de fidélité dans le mariage, elle s'étend à la fidélité de la parole en général ? Pourquoi le texte s'en prend-il soudainement au serment ?
À l'époque, les gens avaient trouvé des méthodes pour éviter de jurer directement par Dieu, pour ne pas risquer de parjure.
Oui, les sources sont assez drôles là-dessus. On jurait par le ciel, par la terre, ou même par les cheveux de sa propre tête. Ce qui, comme le note Kinner, n'est pas très dissuasif quand on commence à perdre ses cheveux.
C'est ça. Le fond du problème, c'est que le besoin de faire un serment prouve que la société s'attend à ce que tu mentes par défaut. Les serments sont un pauvre substitut à l'intégrité. Le texte demande une transparence totale, que ton oui soit oui, point.
D'autres groupes faisaient ça aussi à l'époque, non ?
Oui, les Esséniens et les Pythagoriciens étaient connus pour refuser tout serment, car leur parole simple devait suffire.
Ça me fait penser à cet exemple moderne incroyable mentionné dans les notes à propos d'un tribunal au Nigeria. Autrefois, le simple témoignage d'un chrétien réglait l'affaire, tellement ils étaient réputés pour ne jamais mentir.
Exactement. Et le jour où un seul d'entre eux a menti sous serment, c'est tout le système de confiance communautaire qui s'est effondré d'un coup. L'intégrité, c'est hyper fragile.
Et c'est facile d'être intègre quand tout va bien. Mais que faire quand on est attaqué ? C'est là qu'on passe au fameux « œil pour œil » et « tendre l'autre joue ». J'avoue que l'œil pour œil sonne très barbare aujourd'hui.
C'est vrai, mais historiquement, le lex talionis du code d'Amourabi, c'était un énorme progrès civil. Avant ça, la règle, c'était la vendetta totale. Si on te crevait un œil, tu tuais la personne et toute sa famille.
Donc la loi imposait un plafond à la vengeance, en fait.
Voilà, c'était pour limiter la violence, pas pour l'encourager. Mais le texte va encore plus loin et demande de ne même pas utiliser ce droit proportionnel.
D'où le fait de tendre l'autre joue. Mais ça ressemble à une agression suicidaire face à une agression physique, non ?
Pas du tout, et le contexte culturel est fascinant ici. Dans cette culture de l'honneur, recevoir une gifle sur la joue droite pour un agresseur droitier, ça implique une frappe avec le revers de la main.
Ah, donc ce n'est pas un coup pour blesser physiquement ?
Non, c'est une insulte. C'est un défi public visant à rabaisser le statut de l'autre. Donc, tendre la joue gauche, ce n'est pas de la soumission passive, c'est une forme de résistance créative qui dit « ton opinion et ton petit jeu de statut ne m'atteignent pas. Tu n'as pas le pouvoir de m'humilier. »
C'est brillant. Pour faire une analogie avec aujourd'hui, c'est la dynamique parfaite face à un troll sur Internet. Refuser de répondre à une insulte en ligne, c'est refuser de jouer le jeu de l'ego de l'attaquant.
Complètement. Et il y a d'autres exemples tactiques, comme la tunique au tribunal. Si quelqu'un te poursuit en justice pour prendre ton vêtement intérieur, le texte dit de lui donner aussi ton manteau.
Et donc, tu te retrouves nu au milieu du tribunal.
Exactement. Et dans cette culture, la honte de la nudité ne retombait pas sur la personne dévêtue, mais sur celui qui causait ou regardait cette nudité, donc le créancier cupide.
Ça retournait la honte contre l'oppresseur.
Il y a aussi l'exemple du soldat romain. un légionnaire romain pouvait légalement réquisitionner un civil pour porter son sac hyper lourd, mais sur un seul mille romain maximum. Oui, et en proposant de le porter sur un deuxième mille de son plein gré, le civil subvertit totalement la dynamique de pouvoir. Le soldat se retrouve déstabilisé, potentiellement en infraction avec son propre règlement.
C'est reprendre le contrôle de la situation. Bon, là, on arrive à la partie la plus difficile. Parce que ne pas se venger, c'est une chose, mais l'épreuve ultime du texte, c'est d'aimer ses oppresseurs. Et face à de véritables atrocités, ça semble humainement impossible.
C'est là que les sources nous offrent les moments les plus profonds, avec les expériences personnelles du docteur Kinner. Il raconte que quand il était un jeune athée, il aimait débattre avec d'autres athées, et c'était facile de rester courtois.
Mais la réalité du terrain l'a rattrapé.
Ouais. Lors d'un vol vers la Côte d'Ivoire, après la guerre civile, il a soudain pris conscience qu'il détestait viscéralement les djihadistes qui avaient attaqué la région de ses amis au Nigeria. Ses amis avaient dû se réfugier pendant 3 jours dans une église avec un cadavre à côté d'eux.
Humainement, cette haine est tellement compréhensible. C'est même une réaction protectrice ?
Complètement. Mais pour être cohérent avec ce qu'il enseignait, il s'est senti convaincu de devoir abandonner cette haine dans son propre cœur.
Le texte met en parallèle deux histoires d'étudiants face à des traumatismes similaires et le contraste est saisissant.
Oui. D'un côté, un étudiant latino-américain dont les parents avaient été assassinés par un voisin sous une dictature de droite. Il a prié pour la vengeance divine et franchement, on le comprend.
Bien sûr.
Mais de l'autre côté, tu as l'histoire bouleversante de Sunday, un étudiant nigérien. Lors d'une attaque, Sunday pensait avoir perdu toute sa famille. Et pendant qu'il priait, il a demandé à Dieu de pardonner aux assassins.
Pardonner à ceux qui venaient potentiellement de massacrer sa famille.
Ouais. Sa logique, c'était que sa famille avait l'espoir de la vie éternelle, mais que les tueurs, s'ils mouraient dans leur violence, n'avaient aucune espérance.
C'est un niveau d'empathie qui donne le vertige.
Totalement. Et si on relie cela au tableau d'ensemble, aimer l'ennemi ne signifie pas annuler la justice civile ou les actions de police pour arrêter le crime. L'enjeu est interne. Le cœur du croyant ne doit pas héberger la haine. Comme le dit le texte, la pluie tombe sur les justes et les injustes.
Cette justice du cœur nous amène directement au chapitre 6, sur la pratique quotidienne. Si l'intention est la seule chose qui compte, le texte met en garde contre la justice théâtrale, faite juste pour obtenir l'approbation humaine.
C'est le piège de l'ego. Le texte prend 3 exemples, l'aumône, la prière, le jeûne. Pour l'aumône, c'est l'image de ne pas sonner de la trompette quand on donne de l'argent.
Ne pas laisser la main gauche savoir ce que fait la droite.
Voilà, un secret absolu. D'ailleurs, même le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait « Ne laisse pas ta propre oreille t'entendre quand tu fais le bien ».
Pour le jeûne, les détails historiques des sources sont dingues. Les Grecs utilisaient un instrument, le strigile, pour racler l'huile et la sueur de leur corps.
Ouais, mais certains juifs qui jeûnaient arrêtaient délibérément de se laver ou de soindre pour avoir l'air bien misérable devant tout le monde.
Le besoin d'attention, quoi.
C'est ça. Le texte répond « Lave-toi, brosse-toi les dents et garde ton jeûne secret ».
Et la prière païenne, c'était la même logique de démonstration ?
Les païens pensaient manipuler les dieux en empilant des syllabes ou en listant tous les noms possibles d'une divinité, de peur de se tromper de formule maïque. En contraste, on a le fameux « Notre Père ».
Une prière ultra concise.
Très concise, parce que la divinité est censée déjà connaître le besoin.
Et la conclusion de tout ça, c'est que si tu cherches l'approbation des hommes, le reçu porte la mention « payer intégralement ».
Payer intégralement.
Oui, c'est un terme commercial antique.
Le regard admiratif du public, c'est ton paiement final. Aucune autre récompense spirituelle n'est due.
Pour résumer cette exploration, on voit bien que ces textes antiques ne sont pas une série de règles juridiques étouffantes. C'est vraiment une invitation à une transformation interne totale, où l'intention prime sur l'apparence.
C'est exactement ça, un changement de l'intérieur.
Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, cette idée de justice secrète soulève une question vertigineuse pour notre époque. On vit dans une ère hyper connectée où la moindre bonne action est filmée, publiée sur les réseaux sociaux pour récolter des likes. C'est le fameux affichage de vertu.
Le virtue signaling, ouais.
Voilà. Et si la valeur absolue d'une conviction réside vraiment dans ce qu'on fait quand absolument personne ne regarde, on peut se demander que resterait-il de notre propre intégrité si l'on supprimait soudainement notre public. De quoi méditer. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse en profondeur et à très bientôt.